Allez, je vous propose de retrouver Serge Tizi, professeur d'histoire géo au lycée Félix Esclangon, qui nous propose aujourd'hui un cours radiophonique d'histoire et géographie sur le siècle des Lumières. Serge Tizi.
Bonjour, chers auditeurs, auditrices de Fréquence Mistral Manosque. Bonjour, chers lycéens. Bonjour à tous les confinés d'ici et d'ailleurs. Je vais donc parler aujourd'hui du siècle des Lumières. Alors, j'aurais presque envie de commencer par une petite chanson. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Vous connaissez tous cette petite ritournelle, et cette petite ritournelle est un des grands chants français du XVIIIe siècle, et c'est par cette chanson que je vais commencer aujourd'hui. Donc, le siècle des Lumières est la période située entre le Bill of Rights, la déclaration des droits écrite par les Anglais, je rappelle, en 1689, et puis la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, c'est-à-dire au début de la Révolution française. Le qualificatif des Lumières symbolise les différentes sources de connaissances qui devraient illuminer l'humanité. Ces faisceaux de lumière s'opposent à la lumière, c'est-à-dire l'unique, celle de la seule providence et décision divine. C'est une révolution des sciences et de la pensée par un nouvel esprit, c'est-à-dire un esprit scientifique. Celui-ci cherche des solutions à des problèmes par l'observation et le partage des connaissances. Ainsi naît la machine à vapeur en 1765 avec James Watt, un Anglais, qui profite des travaux du Français Denis Papin et de l'Anglais Thomas Newcomen. En 1770, le Français Cugnot a l'idée de mettre cette machine à vapeur de James Watt sur une charrette et de faire le premier véhicule mobile. Il avait juste oublié la question des freins, ce qui fait qu'il va se prendre un mur. C'est cet empirisme, ces échanges de données qui permettent aux frères Montgolfier de faire voler un ballon à air chaud à Annonay en Savoie pour la première fois. Et c'est le premier vol humain qui a lieu en France avec Jean-François Pilâtre de Rosier et deux autres de ses compères à Paris le 19 octobre 1783. Enfin, de l'autre côté de l'Atlantique, un jeune imprimeur, Benjamin Franklin, invente lui aussi un paratonnerre à Philadelphie. Donc nous avons ici une succession d'inventions, de nouveautés. Il faut voir aussi qu'à l'époque, on commence les vaccins, chose qui était inventée depuis l'Antiquité. On connaissait le principe de ils vont inoculer une maladie pour que la personne, une première fois malade, ne soit plus jamais malade. Donc on a les premières vaccinations qui se font à l'époque par incision. L'encyclopédie de Diderot et d'Alembert se veut être la somme critique de toutes ces connaissances les plus nouvelles. Tous les domaines y sont décrits par des spécialistes des questions, c'est-à-dire des savants, mais aussi des maîtres des métiers, comme des maîtres boulangers, des maîtres artisans, qui viennent donner leur expérience, décrire aussi leurs outils et la façon dont ils s'en servent. Aux écrits en français se succèdent donc les planches de dessins explicatifs des naturalistes comme Buffon, à l'étude des gaz comme vous Lavoisier, inventeur notamment du nom d'oxygène, mais aussi on y trouve des dessins, des ateliers, des tisserands, des boulangers dont je parlais précédemment. Ainsi, une culture d'élite côtoie une culture populaire, une humanité individuelle. Visible se fait jour à ce moment-là dans l'encyclopédie. Donc les arts, la politique, la religion sont aussi décrits dans l'encyclopédie, voire même dénoncés dans leurs aspects les plus répréhensibles aux yeux des philosophes. C'est pourquoi les jésuites, notamment cet ordre ecclésiastique catholique, obtiennent dès la première parution du premier volume, sur 37 en tout, la censure royale. À côté des articles scientifiques, effectivement, certains articles plus anodins remettent en question l'intolérance des religieux de toutes les confessions. La simple revendication d'ailleurs de tolérance est considérée comme blasphématoire par les religieux, qu'ils soient catholiques, protestants, juifs ou autres, peu importe. La monarchie absolutiste elle-même est remise en question par certains écrits des philosophes qui lui préfèrent cet exemple que j'ai décrit la dernière fois dans l'émission sur les révolutions anglaises, qui lui préfèrent plutôt une monarchie tempérée par des parlements comme c'est le cas par exemple en Angleterre. Cependant, attention, les philosophes ne sont pas tous d'accord entre eux. C'est un peu comme le débat en ce moment, faut-il être pour le professeur Raoult ou pas pour le professeur Raoult. Donc nous avons ici des débats de scientifiques, des débats de savants qui mettent en avant leurs hypothèses, leurs trouvailles, et qui ne sont pas obligatoirement tous d'accord entre eux. Donc et notamment dans les affaires politiques ou religieuses, il y a des divergences. Par exemple, dans les affaires politiques, un Diderot, un Voltaire, un Montesquieu sont pour un gouvernement monarchique tempéré par des élites, un roi savant. C'est ce qui pousse d'ailleurs Voltaire à être l'ami du roi très francophone Frédéric II de Prusse, et il vit un temps au palais du Sans-Souci à Potsdam, au sud-ouest de Berlin, auprès du monarque Frédéric II, jusqu'à ce qu'un jour Frédéric II, parlant parfaitement la langue française, puisqu'il a été éduqué à cette langue par des huguenots français qui se sont réfugiés à Berlin, que Frédéric II se rende compte que Voltaire se moque de son accent et se moque bien méchamment de Frédéric II, ce qui vaudra à Voltaire d'être expulsé de la cour du roi Frédéric II pour ce fait-là. Que ce soit Voltaire ou que ce soit Diderot, ils sont pour un despotisme éclairé, c'est-à-dire que pour eux, un roi qui serait éduqué à leur philosophie aurait toute l'intelligence de gouverner un peu mieux son pays et ses peuples, et donc de les élever. Mais attention, ce n'est pas ici une démocratie, je le répète. Nous n'avons pas ici une forme de président. Et d'ailleurs, la grande figure de l'époque qui est adorée par un certain nombre de philosophes des Lumières comme Diderot, Voltaire ou Montesquieu, c'est Catherine II de Russie, qui n'est pas véritablement une démocrate. Je vous invite à lire sa biographie. Jean-Jacques Rousseau, quant à lui, né à Genève, d'une famille de huguenots qui s'est réfugié là-bas quand Louis XIV a remis en question l'édit de Nantes, ce Jean-Jacques Rousseau, converti au catholicisme, développe une autre idée. Il dissocie, il est plutôt pour une démocratie. Alors il dissocie dans la démocratie, et dans sa grande œuvre qui s'appelle Le Contrat Social, les petits pays, où là il est d'accord pour une démocratie directe, qui est possible avec des citoyens, qui ferait un peu ce que faisaient les Athéniens à Athènes, c'est-à-dire qu'ils se mettent d'accord entre eux dans des processus démocratiques de démocratie directe. Il est plus circonspect sur la question, c'est-à-dire qu'il se pose de véritables questions sur la faisabilité d'une démocratie directe dans les grands pays, où pour lui, en tout cas, même si c'est pas véritablement le mieux, c'est plus la délégation de pouvoir qui est incontournable. Il déclare d'ailleurs que la démocratie, dans son ouvrage, n'est possible que par un peuple instruit et éduqué. Sans cela, ce n'est pas une démocratie, c'est une tyrannie. Il est le père de la souveraineté du peuple, mais attention, pour lui, le peuple ne gouverne pas obligatoirement. Alors, je sais que c'est un peu compliqué à comprendre, mais en fait, ce qui gouverne, c'est la loi qui était l'expression de la volonté générale qui ordonne la société. Et dans un grand pays, la délégation de pouvoir est préférable parce que elle fait des lois plus tempérées. toute la question est dans la tempérance. Diderot à la suite, ce sera celui qui s'opposera le plus à Jean-Jacques Rousseau, hein, avec Voltaire. Donc Diderot à la suite des récits des voyages autour de la terre de James Cook et de Bougainville, notamment de leur séjour à Tahiti, dénonce lui les corruptions et les erreurs des colonisateurs et de la civilisation européenne. Et il dit, par exemple, non pas que le sauvage est bon, mais que les sociétés européennes pervertissent cet idéal de société, notamment à Tahiti. Et Rousseau, lui, déclare que l'homme n'est bon, c'est-à-dire que le premier jour de sa vie, il est bon, et qu'en fait, c'est la société qui le pervertit. Donc, et que à partir de ce moment-là, eh bien, la loi doit résoudre ce problème de perversion. Toutes ces raisons, donc tous ces débats, toutes ces nouveautés, toute cette nouvelle façon de penser, eh bien, pousse, par exemple, enfin, le pape à interdire à tout catholique de lire ces volumes de l'encyclopédie, à considérer que l'encyclopédie est blasphématoire et que tout catholique qui s'adonnera à cette lecture-là, eh bien, sera excommunié de l'Église catholique. Et il en va de même des sociétés calvinistes, par exemple à Genève, qui vont avoir à peu près le même principe. Toutes ces idées remettent en question quoi ? Eh bien, elles remettent en question le caractère sacré de la division de la société. Depuis le Moyen-Âge, on considérait que les nobles, le clergé et le tiers-état avaient été divisés, immuablement divisés, parce que la volonté divine avait voulu qu'elle soit divisée. Depuis l'aube des temps, on pensait que, en tout cas en Occident, le divin dirigeait les décisions. Et pour les philosophes des Lumières, il n'y a pas de décision divine. Il n'y a pas de fatalité pour les philosophes des Lumières. L'humain peut trouver par le raisonnement des nouvelles explications, des nouvelles solutions. Et ils sont en ce sens, ces philosophes des Lumières, inscrits dans quelque chose que vous avez certainement appris quand vous avez fait, quand vous avez étudié la Renaissance, c'est-à-dire cet esprit du libre arbitre et de l'homme au centre de tout débat. Donc, le siècle des Lumières est un combat entre ces penseurs, c'est-à-dire ces faisceaux de lumière, et puis ces religieux qui ne pensent qu'à une seule lumière, la providence divine. Voltaire défend, lui, la justice et la tolérance, comme d'autres philosophes, comme quasiment tous les autres philosophes. Il les défend d'autant plus que il prend position dans deux affaires où l'intolérance religieuse a été démontrée, c'est-à-dire l'affaire Calas à Toulouse et l'affaire du chevalier de la Barre à Abbeville. Alors, je vais raconter un peu d'une façon très sommaire ce que sont ces deux affaires. Donc, dans l'affaire Calas, tout tourne autour des années 1760, 1765-67. Et donc, dans l'affaire Calas, qui se passe à Toulouse, un père protestant est accusé d'avoir pendu son fils, un grand gaillard de 18-20 ans, car ce dernier voulait se convertir au catholicisme. Donc, le procès, il est conduit de façon absolument pas dans la façon que l'avaient établi les Anglais dans l'habeas corpus. Donc on prend le père, on le met en prison, on le torture, on le passe à la question, c'est-à-dire à l'inquisition. Et là, après un procès qui est conduit sur des oui-dire et des ragots de rue, hein, puisque c'est un protestant qui habite au milieu des Toulousains, eh bien le père est conduit à la roue. Alors la roue, c'est quoi ? On met quelqu'un sur une roue et puis on fait tourner la roue et puis vous avez un bourreau qui tape avec une grande barre métallique sur les membres, sur le corps, et puis si vous avez un peu de chance, on vous étrangle ou alors on vous laisse mourir de vos hémorragies internes et du brisement de vos os dans votre chair. Donc voici un premier un premier tribunal, donc qui une première cour qui a jugé donc ce Jean Calas et donc la justice royale va après l'intervention de Voltaire réhabiliter la famille contre l'avis de cette justice locale. Quant à l'affaire du chevet de la barre, mais elle est encore aussi abjecte et aussi intolérante, et elle montre bien l'intolérance des gens, hein, pas obligatoirement de l'Église, mais des gens de l'époque. Hein. C'est pour ça qu'il faut être très très prudent en justice sur ce que pense le commun du mortel. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? On a, on va dire, un truc qui se passe sur un pont d'Abbeville. On a des petites inscriptions qui sont faites sous une croix. Bon, voilà, avec des excréments qui sont mis en ville. Et là, bien sûr, on cherche qui a pu faire ces petites inscriptions. Et on trouve, il y a une petite enquête qui est menée par la police locale de l'époque, et là on trouve que il y a des jeunes qui se baladent dans la ville, qui chantent des chansons paillardes, et qui, au passage d'une procession, ne se sont pas décoiffés. Donc, ils n'ont pas enlevé leur chapeau au passage d'une procession. Alors, bien sûr, dans cette bande de jeunes qui ont 15, 16 ans, 17 ans, là, vous avez des enfants de la bourgeoisie d'Abbeville, et puis ces enfants-là, bien sûr, quand les magistrats et les bourgeois de la ville se disent tiens, ils sont en train de faire des recherches sur nos enfants, qu'est-ce qu'on fait, on les envoie en Allemagne, on les envoie en Belgique, aux Pays-Bas à l'époque, on les envoie loin d'Abbeville, hein, loin de la justice locale. Et là, il reste qui? Il reste un jeune orphelin, le chevalier de la Barre, qui a 15 ans, et lui, qu'est-ce qu'il dit? Lui, on le passe à la question, on l'enferme. On le torture et puis la justice locale le condamne pour impiété, blasphème, sacrilège, pour avoir fait quoi? Comme ils ont pas de preuves, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ce jeune homme en plus il chante des chansons paillardes contre l'Église, des choses de ce type. Vous vous rendez pas compte, c'est impossible. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de le condamner à mort. D'autant plus que, en fouillant dans ses affaires, ils ont trouvé un écrit de Voltaire, son dictionnaire philosophique. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Écoutez-moi bien, ils vont décapiter ce jeune garçon de 15 ans, d'accord? Ils vont le décapiter, et en même temps qu'ils vont le décapiter, ils vont lui clouer sur le corps le récit philosophique, le livre philosophique de Voltaire. Et ainsi, ils vont ensuite le brûler. Donc, Voltaire, bien sûr, va être mis au courant de cette histoire, va prendre fait et cause pour cette histoire et pour la réhabilitation. Il est d'ailleurs rejoint par l'évêque d'Amiens qui trouve que franchement on a dépassé les limites. Quand l'évêque d'Amiens est allé voir Louis XV pour lui demander est-ce que vous pouvez rendre grâce pour ce jeune homme, Louis XV a dit écoutez non je peux pas parce qu'il faudrait à ce moment-là que j'écrive au Parlement, mais je suis fâché avec le Parlement, donc je ne veux absolument pas intervenir dans cette histoire, je n'interviendrai pas dans cette histoire. Tous ces débats, l'affaire Calas, tous ces débats sur l'encyclopédie, tous ces débats sur le chevalier de la Barre, sont des débats connus. C'est public. Bien sûr, je n'ai qu'une presse, je n'ai qu'un journal, mais vous avez des feuillets qui s'impriment. Ça se diffuse et l'encyclopédie se diffuse dans tout le royaume. Alors pour échapper au gabelou, c'est-à-dire au gabelou, c'est-à-dire au douanier, vous dites que vous avez imprimé l'encyclopédie en Hollande, ce qui fait que tous les douaniers vont se rendre sur la frontière avec la Hollande. En revanche, mais c'est pas vrai, parce qu'en fait, vous l'avez fait imprimer à Rouen. Donc, quand vos douaniers sont dans le Nord, votre encyclopédie, elle vient du Sud et vice-versa. On trouve toujours des stratagèmes. Même stratagèmes, d'ailleurs, qui sont donnés aujourd'hui quand vous voulez censurer quelque chose qui vient de YouTube, la censure est quasiment impossible. Pourquoi? Parce que c'est fait aux États-Unis, le siège est aux États-Unis, et qu'aux États-Unis, rien ne peut être interdit. Donc, et là-dessus, il faut bien avoir à l'idée, parce que je voudrais bien insister là-dessus, parce que la dernière fois, sur la monarchie absolutiste, je voudrais bien que vous soyez bien conscients de ça, c'est que ce ne sont pas des dictatures. On n'a pas un appareil policiers, militaires, comme aujourd'hui, ou comme par exemple sous d'autres dictatures, comme celle de Lénine, de Staline, d'Adolf Hitler ou de Pol Pot. Donc on n'est pas ici dans des grandes dictatures d'aujourd'hui, comme c'est par exemple le cas en Corée du Nord ou dans d'autres pays. Non, là on est dans des monarchies qui ont un appareil d'État tout petit, ils font la censure, mais enfin la censure... C'est tout est relatif. D'autant plus que Louis XV n'est pas véritablement quelqu'un qui censure, c'est quelqu'un qui n'agit pas. Et en plus de ça, il y a sa maîtresse, la Madame de Pompadour, qui elle protège tous ces philosophes. Vous avez en plus le successeur de Louis XV, c'est-à-dire Louis XVI, qui lui est un roi des Lumières. Il n'est pas le petit bonnet, hein, c'est un homme qui sait lire, c'est un homme qui est inscrit, c'est un homme qui lit, qui a lu une encyclopédie. Ces lumières diffusent des idées. Ces idées sont discutées dans tous les salons aristocratiques et bourgeois des villes de province et des villes d'Europe, parce que c'est un processus bien sûr européen. Ces idées se diffusent aussi au niveau populaire par le théâtre, par les dessins, par les chansons vendues par des colporteurs sur les marchés de Manosque, d'Apt et de Bordeaux et de toutes les villes du Royaume de France, que ce soit d'ailleurs des chansons en langue française, en langue d'Oïde, ou en langue d'Oc, ou en breton, ou en alsacien, tout ça est chanté dans toutes les langues des peuples qui font le peuple du roi de France, et puis les peuples des différents monarques européens. Un événement, cependant, va être un accélérateur de cette division d'idées. Cet événement se déroule de l'autre côté de l'Atlantique, c'est la Révolution américaine. En effet, de l'autre côté de l'Atlantique, des Européens vont faire la première synthèse entre la Révolution anglaise de 1689 et le siècle des Lumières, et le 4 juillet 1776, par la rédaction de la Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique à Philadelphie, c'est-à-dire la ville de la fraternité, ils vont faire cette synthèse entre l'Angleterre et le siècle des Lumières. Nous nous quittons avec une chanson populaire française du XVIIIe siècle, La Complainte de Mandrin, chantée par Yves Montand. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée, un bon confinement, et à la semaine prochaine. Au revoir.
Nous étions 20 ou 30 brigands dans une bande, tous habillés de blanc à la mode, vous m'entendez? Tous habillés de blanc à la mode, marchands. La première volerie que je fis dans ma vie, c'est d'avoir goupillé la bourse d'un, vous m'entendez? C'est d'avoir goupillé la bourse d'un curé. J'entrais dedans sa chambre, mon Dieu, qu'elle était grande. J'y trouvais 1000 écus, je mis la main, vous m'entendez? J'y trouvais 1000 écus, je mis la main dessus. J'entrais dedans une autre, mon Dieu, qu'elle était haute. De robes et de manteaux, j'en chargeais 3, vous m'entendez? De robes et de manteaux, j'en chargeais 3 chariots. Je l'ai porté pour vendre à la foire en Hollande. Je l'ai vendu bon marché, il ne m'avait rien, vous m'entendez? Je l'ai vendu bon marché, il ne m'avait rien coûté. Ces messieurs de Grenoble avec leur longue robe et leur bonnet carré mûre bientôt, vous m'entendez? leur bonnet carré m'eurent bientôt jugé. Ils m'ont jugé à pendre, assez dur à entendre, à pendre étranglé sur la place du, vous m'entendez, à pendre étranglé sur la place du marché. Monté sur la potence, je regardais la France. J'y vis mes compagnons à l'ombre d'un, vous m'entendez. J'y vis mes compagnons à l'ombre d'un buisson. Compagnon de misère, allez dire à ma mère qu'elle ne me reverra plus, je suis un enfant, vous m'entendez.